Hey, comment ça va la gang? On est à l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Mathias Turcotte et Antonine Iaccarini. Ça vous arrive-tu d'avoir une double personnalité? Non, c'est parce qu'on est en train de parler, tu sais, comment des fois on peut se transformer.
Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Quelqu'un d'autre. On parle de ça en ronde, fait que textez-nous votre deuxième personnalité, 418-971-1021. Vous devenez qui? J'espère que vous ne devenez pas un tueur en série, par exemple.
J'ose espérer. Ouais. C'est un peu la moindre des choses, mettons.
Ça, c'est non.
Ouais, c'est ça. Ça n'irait pas bien, les amis. Oh, il y a Carl qui nous écrit. Bonjour, remorquage auto près du pont Pierre, la porte nord, voie de droite. Tu veux me checker ça, mon Matt? D'après moi, il va avoir la petite circulation à midi. Je suis pas mal convaincu. Sinon, merci d'être à l'écoute de l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous pouvez l'écouter via la web radio au blvd.fm, notre application BLVD101 sur App Store, Google Play Store, twitch.tv/BLVD/FM. Et également, aujourd'hui comme hier, là, ben, on va avoir deux beaux tirages pour vous durant l'émission. Le tirage pour la soirée du 22 octobre. J'ai très, 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 très hâte de vous voir, chers auditeurs, pour les 10 ans de Boulevard et les 20 ans du Coupe Radio. Le plus long, sûrement, de l'histoire de la radio, Denis Gravel et Véro Bergeron. Donc, on va fêter ça le 22 octobre prochain, mal commode. J'ai deux laissés-passer VIP pour vous, à vous faire tirer. Et également, j'ai une paire de billets pour le spectacle d'Offspring, 21 février prochain, au Centre Bell de Montréal. Ça me fait mal, ça. The Offspring, mon band.
Pas Québec, ben non.
Eh oui, mon band d'adolescence, quand même. L'album Smash, je l'ai écouté jusqu'à temps que la cassette casse dans la Ford Escort de ma mère.
Oh.
Avec mes chums de gars, on partait 5 dans le char, Offspring dans
c'est
le piton.
C'est la première cassette que j'ai achetée, moi.
Ouais, Smash. Ben, moi aussi. Ouais. C'est drôle.
Puis
c'est
avec l'album de Marie-Carmen.
Ah, ouais.
J'ai toujours des styles musicaux un peu bizarres.
Exactement. Oh, on me pose ça sur des news de Pascal et de sa descente. Écoute, j'ai pas de news en tant que telle de Pascal, mais Marc-Antoine Reed, qui était le leader du groupe, m'a écrit ce matin pour me dire « Hey, Jeff, ça te dérange juste la semaine prochaine, je fais ma chronique mercredi au lieu de mardi, je reviens lundi dans la nuit en avion. » Tu as vu qu'il venait de monter de Kilimanjaro? J'ai dit « Oui. » Pas vrai, hein?
C'est gentil, t'es tellement flexible.
Très flexible. Ouais, je suis smart de même, moi, Grim. Alors, tout simplement, donc Mathias qui se lève, là, il se passe de quoi l'instant-là? Quand Matt se lève, là, il y a toujours une affaire technique.
Il faut aussi dire que la technique aujourd'hui, ça a été un défi. On est arrivé à l'heure en ondes, mais Jeff et Mathias ont brisé l'imprimante.
L'imprimante! Non, mais... ça vous arrive-tu des fois, 418-971-101, de fucker le chien avec l'imprimante, là, t'sais, pour finalement te rendre compte qu'il manquait juste du papier?
C'est ça. Fait que quand ils ont mis du papier, il s'est mis à sortir 250 pages de l'imprimante à peu près.
Non, c'est
je tiens à dire, c'est pas de ma faute, celle-là.
Non.
C'est Jeff qui a fait imprimer son plan, je pense, 10 fois avant de réaliser qu'il n'y avait plus de papier. Puis, je veux dire... Là, je vous parle, cher auditeur, ça doit vous arriver là, des journées où que ça roule, puis vous prenez du retard, puis vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de rattraper le retard pour plein de raisons. Ça a été mon cas ce matin, sorti à Lévis de Stephen Blaney, qui a surtout parlé du moratoire. On va reprendre une construction plus intensive à Lévis.
Ouais, c'est un gros
enjeu. 4 ans pour lui, c'est du côté de M. Blaney. On dit qu'il y a plusieurs moyens qui peuvent être déployés pour reprendre ça avant. Il témoigne une perte de 150 millions en termes de développement économique pour la région de Lévis si jamais on attend les 4 ans. Ce qui est arrivé, en gros, c'est que je suis allé au point de presse, j'ai couvert le point de presse, posé mes questions toutes, ça s'est bien passé, mais j'ai oublié mon sac avec mon ordinateur, puis je m'en suis rendu compte une fois à la station, mais vous comprendrez que c'est un 30 minutes de voiture, 30-35 minutes, donc j'arrive à la station à 11h, j'ai un show à faire, je peux pas retourner chercher.
Ton ordinateur,
ben c'est
toi,
ça,
là,
mon outil, c'est mon ordinateur, c'est mon outil de travail numéro 1, c'est avec ça que je prépare les nouvelles, c'est avec ça que je me prépare en général, donc ça a été un travail d'ajustement, un ordi que j'ai jamais utilisé, que je suis connecté sur aucun de mes comptes, que j'ai entre les mains présentement. J'ai dû appeler un ami pour qu'il se rende sur place, aller chercher mon ordi. Et elle est sécurisée, mon ordi est sécurisé. J'ai pas perdu mon ordinateur parce que Dans un budget d'étudiant, un ordinateur.
Non, non, on s'entend.
Ça fait mal, ça fait
mais
mal.
Mais tout ça pour dire que le show commence quand même à midi. Fait que, exactement. Peu importe ce qui se passe, les ordis, les imprimantes, il faut quand même qu'on commence à midi. Ben oui.
Et on était là, derrière le micro, prêt pour vous, parce qu'on aime énormément vous jaser d'actualité et on aime ce segment-là.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Vous le répète, c'est du lundi au jeudi de midi à 12h30, le caucus Iaccarini. Antonine, qui, pendant l'absence de Pascal, nous fait le bonheur d'être avec nous une heure en onde. Antonine, hier soir, j'ai fait un exercice que j'adore. J'ai assisté au débat des candidats à la mairie de Québec. J'adore ces exercices démocratiques-là. J'aime beaucoup y aller. Et là, tout le monde, mes collègues journalistes sur le terrain qui m'ont connu les deux dernières années, me disaient « Ah, on est donc bien content de te voir, Jeff! » Parce que là, maintenant, en faisant le show du matin,
la foule était en délire.
Tu comprendras que je les voyais plus beaucoup. Alors, ben on s'est jasé. Même le maire Marchand était tout heureux de me voir, a pris des nouvelles de moi, je te le dis.
C'était la star du soir.
Qu'est-ce? Ben non, 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 non. C'est quand même les six candidats, là. Moi, j'étais assis dans le coin à droite, bien peinard, là. Bien tranquille, mais...
Il était privilégié d'avoir Jeff. D'habitude, ils ont juste Mathias. C'est un grand événement quand même.
Mais je vais vous avouer que ça a été toute une journée de travail. Là. Je m'étais quand même levé à 3h45 pour le show du matin, puis j'ai terminé ça hier soir. Je suis sorti là à 8h. Pour le débat.
Pas tous les jours, s'il te plaît.
Non, pas tous les jours. Ça a été une bonne journée, mais exercice très intéressant. J'ai aimé de la façon qu'on a fait ça du côté de la Chambre de commerce parce qu'il y avait 6 candidats à la mairie. On le sait, c'est bien ça. Et, ouais, t'es comme moi, Matt, il y a un petit son. Hein?
Oui, on a un son de fond. Il y a comme un feedback,
comme
je vais aller voir avec la technique.
Double. Oui, exactement. Parfait. Donc, on va tenter de faire fi du feedback. Et ce qui arrive, c'est que les 6 candidats sur chaque thème pouvaient se préparer, mais par la suite, il n'y avait pas nécessairement... on se mettait en duo. Donc, on débattait en
face
duo,
à face,
ce qui était vraiment plus intéressant là, qu'à la normale. Et c'était divisé en 3 thèmes. Donc, économie, transport et mobilité et logement. On a parlé de tramway tout le long. Ah, oh, je suis découragé.
Color me surprised.
Non, c'est ça. Mais je suis découragé. J'ai le goût d'entendre d'autres choses que je suis pour le tramway ou je suis
anti-tramway.
C'est pour ça que
Bruno Marchand s'aligne de dire, ben, t'sais, il s'attaque principalement à sa maman et à Stéphane Lachance là-dessus, mais de dire, vous nous faites revivre l'élection de 2021.
Mais il a entièrement raison.
C'est une bonne ligne parce que c'est vrai qu'on a des impressions de déjà-vu et de jour de la marmotte.
Exactement. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec, parce que j'ai enregistré tout le débat, et j'ai fait des petits montages. Donc, un montage pour l'économie, un montage pour transport, mobilité, un pour logement et un avec les différents commentaires là, des candidats à la mairie avec le scrum de fin, justement, de débat. Alors, je te propose d'écouter les 4 et on commence avec l'économie. Ça te convient?
On y va.
Encore là, c'est des détails techniques. Je vois pas de vision là-dedans. J'entends pas.
15 secondes.
De grands projets.
Ma vision, c'est de faire en sorte de mettre de l'argent dans les poches des gens.
On l'a dit tantôt. Un grand projet.
Ma vision, ce sera pas d'aller jouer en tant que tel dans d'autres secteurs où j'ai pas de juridiction.
On va enlever la taxe de M. Marchand de 60 $. On va enlever les frais qu'on paye pour faire 12 paiements par année, nos taxes. Il y a des frais de 80 $. On va l'enlever. Si on a 2 voitures, puis cette taxe-là et la petite taxe sur les chats, aussi on l'enlève, c'est 200 $
de moins. Développement économique,
c'est 200 $.
Vous parlez de taxes sur les chats.
En fait, la fiscalité...
C'est pas du développement économique,
M. Marchand.
On a amélioré... Bien qu'en dise le contraire, M. Hamad, ce qu'il faut par des indicateurs indépendants, l'environnement d'affaires de nos commerçants, de nos entrepreneurs, on est passé de la 11e place au Canada à la 2e place, et c'est KPMG qui le dit.
Tu sais, à un moment donné, là, vous savez, M. Marchand, tout le monde a le droit de rêver. Tout le monde.
Mais ça tombe bien parce
moi,
que...
Moi, je trouve que vous rêvez.
Ça tombe bien parce que votre cadre financier est fait comme ça.
Oui, oui.
Mais ça tombe très bien parce que votre cadre financier, quand vous dites...
Vous parlez de ce cadre-là?
Oui. Je peux vous parler du mien?
Oui, pas problème, je suis content. Okay. Au moins, on en aura chacun. Ça, là-dessus, au moins, on va s'aggraver.
Exactement.
Très bien. Je pense que vous avez compris.
Ben non, pas vraiment. Genre, c'est pas plus sur ce que vous voulez faire poser comme geste économique, comme mesure. Puis si vous voulez vous occuper du développement de la Rive-Sud, il y a une élection municipale à Lévis également. Comme M. Lachance nous démontre, c'est pas impossible de traverser d'une rive à l'autre.
Tu sais, je suis la politique municipale depuis 2 ans sur les pour Boulevard 101, puis... Bruno Marchand, en termes de développement économique, a une année 2023 difficile avec un recul de 0,3% par rapport au PIB et une augmentation très modeste de 0,4% en 2024. C'est même pas venu de la bouche d'aucun opposant hier.
Non,
on lui
c'est
a
ça.
Laissé le chemin libre.
Ben oui, parce que finalement, puis tout le temps qu'on prend à parler du tramway, veut, veut pas, ça élude d'autres
exactement.
Enjeux aussi. Je pense que c'est pour ça que les gens sont un peu tannés aussi de qu'on, que tout à Québec tourne autour des projets de transport. C'est parce qu'il y a d'autres choses. Le développement économique, c'est pas juste le tramway. C'est vrai que la vision économique de Bruno Marchand, il y a quand même un gros bout qui, disons, est lié au tramway,
oui.
Parce qu'on considère que ça va être
mais
la colonne vertébrale
il
de
l'a
la
dit
ville.
Hier, c'est une, quand on a des difficultés, comme on vit présentement avec les tarifs aux États-Unis, on se rabat sur le développement des infrastructures.
Sur des grands travaux.
Sur des grands travaux pour motiver l'économie. J'ai annoncé ce matin qu'il va y avoir jusqu'à 80 000 emplois créés avec ça. Ça va nous créer du logement, de la densité. Donc,
il y a
vendu... Exactement.
Mais... reste que c'est pas juste ça, le développement
ben
économique. Puis les candidats, les opposants à Bruno Marchand ne prennent pas ces fenêtres d'opportunité-là.
Non, c'est ça. J'entends pas de grande vision économique de la part de Stéphane Marchand, sinon de dire ben je vais redonner de l'argent dans les poches du citoyen puis d'un commerçant, mais encore là, son cadre financier, on se pose énormément de questions. Sam Hamad nous parle de reprenariat puis d'intelligence artificielle, mais ça reste très flou. Le seul autre qui est plus terre-à-terre, c'est Claude Villeneuve en disant ben moi, c'est le commerce local que je veux développer, puis je veux développer les artères commerciales. Mais pour le reste, là, c'est du vent.
C'est plus flou un peu. Cela dit, c'est vrai que le reprenariat, c'est un enjeu qui est important.
Bien sûr.
Par contre, est-ce que vraiment c'est la municipalité qui a le plus d'emprise là-dessus? Mm-hmm. Ben, c'est de créer des environnements d'affaires, c'est de créer un contexte qui est favorable. Mais oui, ça reste que c'est pour certains candidats, la vision économique est moins développée. Pour Stéphane Lachance, je trouve qu'il y a une vision plus financière qu'économique.
En effet, t'as entièrement raison.
On coupe.
Oui, on coupe. T'as entièrement raison. Ça va plus dans le cadre des finances publiques que dans le cadre du développement économique. Je te fais entendre transport et mobilité.
La proposition que vous avancez, je le sais que votre argument, c'est de dire qu'avec l'enquête origine-destination,
oui.
ça a reculé un peu. Mais ça... si vous aviez été ministre des Transports, vous sauriez que le transport en commun, son achalandage augmente tout le temps dans le temps. Mais en fait, c'est vrai, vous avez été ministre des Transports, mais vous n'avez pas appris ça. Donc, on va arriver à saturation dans l'air.
L'insulte.
Et votre projet ne prévoit pas aucune...
Mais vous, là, vous n'avez jamais été nulle part dans le ministère, aucun ministère de votre vie.
J'étais avec Pauline Marois, j'en suis très fier.
Ah oui, mais vous étiez derrière. Mais quand un jour, vous allez avoir une responsabilité dans votre vie raisonnable, vous pouvez parler et comparer. Enlevons ça. On va revenir à la réalité. Vous, là,
donc, Monsieur Hamad,
vous avez 10 élus, quand vous êtes élu, vous en avez 10, vous avez fini avec 2.
OK, on est rendu loin de la mobilité. Vous allez là, Monsieur Hamad, voulez-vous qu'on parle de votre candidat dans ce sacrement aujourd'hui?
Moi, j'ai entendu.
Si vous voulez parler de ça, ça va être ça. On va avoir beaucoup de plaisir, j'en aurai plus que vous.
Excuse-moi.
Mais reste que votre proposition, elle omet. On va ramener sur la mobilité. Vous n'avez aucune solution.
Reste 20 secondes, 20 secondes.
Vous arrivez à saturation, répondez-moi là-dessus. Quelle est votre solution?
Le réseau structurant, là, c'est comme le sang dans nos veines, OK? Puis le tramway, là, c'est comme se payer contre notre volonté une opération à cœur ouvert pour se faire injecter un caillot. Ça veut dire que, comprenez-vous? OK? C'est
Madame
ça, là.
Smith,
on est en train
Madame
de payer.
Smith, 5 secondes.
On est en train de payer pour se créer des problèmes. Je vous le dis, Madame Smith, là, un jour, c'est sûr, on va foncer dans le mur avec ce projet-là. Puis on se souviendra
d'accord.
de ce qui s'est passé ici. Donc, il faut y penser
d'accord.
comme il faut.
Il y a certains de vos candidats dans leur porte-à-porte qui disent qu'ils vont optimiser le RTC puis après faire le SRB. Mais généralement, quand je vous entends, vous dites le SRB, c'est immédiatement. Pourriez-vous juste me dire dans quelle direction
merci
vous
de me donner l'occasion.
Ouais.
En fait, le RTC est 9e
sur 10.
Oui, mais le RTC actuellement est classé parmi les sociétés de transport au Québec 9e sur 10.
9e sur 10.
C'est une honte. Monsieur Marchand doit avoir honte aujourd'hui d'entendre ces chiffres-là. Nous, on va travailler la gestion de l'RTC, on va geler l'embauche, on va couper du personnel dans l'administration et on va rendre la société de l'RTC parmi les meilleures. Ça, c'est l'élément essentiel pour avoir un meilleur transport. Tantôt, il disait qu'on augmente... Monsieur
Marchand,
je vais
juste répondre parce que c'est une question que je vous ai posée.
Vas-y.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Le SRB, le faites-vous maintenant ou vous le faites après avoir optimisé le RTC?
La première journée, nous sommes élus,
okay.
on arrête le tramway,
donc,
puis on embarque dans les services.
Passez le message à vos candidats, parce que c'est pas ça qu'ils disent en passant, en faisant du porte-à-porte.
Ça, c'est un cheap shot de Stéphane Lachance. Ça, j'ai beaucoup de gens de l'équipe de Sam Hamad qui m'ont écrit après pour dire okay, « mais il n'y a personne qui dit ça. Pourquoi il sort ça en débat? »
Mais ça, c'est quelque chose que tu peux pas vérifier. Tu lances dans un débat.
C'est ça.
Et là, sur le coup, tu dis « mais de quoi parle-t-il? » Et tu peux pas vérifier. Ça me fait penser à un débat en 2003. Là, ça fait longtemps, vous allez me dire, mais Bernard Landry qui s'était fait lancer par Jean Charest, que Jacques Parizeau aurait dit quelque chose. Puis là, tu n'as aucun moyen pendant le débat de vérifier. C'est tannant, ça.
Il a changé, justement. Il a changé le cours de cette élection-là, Jean Charest, par la suite.
Il y a
un
très bon documentaire là-dessus qui s'appelle « À hauteur d'homme » pour les geeks de politique.
Ah, je vais aller écouter ça, c'est certain. Pour ce qui est du débat sur la mobilité, bien évidemment, on a parlé énormément de tramway. Avec la citation d'Anne Guérette, ceux qui ont manqué Anne Guérette sur nos ondes ce matin.
C'est dégueulasse. Excuse-moi, là, mais je sais pas s'il y a des gens qui ont peur du sang à la maison, là, mais l'image du caillot m'a troublé.
Vraiment.
Mais en entendant cette citation-là, je me suis posé la question, est-ce que Anne Guérette a tellement peu d'attention médiatique qu'elle s'est dit « j'ai pas le choix de sortir
c'est
une citation qui sort tellement... »
Quelque chose
d'imagé. C'est ça, tellement d'imaginaire, tellement que personne s'y attend, que là, je vais en avoir de l'attention médiatique, puis au moins, on va connaître ma position sur le tramway.
Sa citation a fait la cote. Elle a fait la cote dans notre résumé. J'ai lu dans les articles de journaux aussi, ça a été repris.
Tu as entièrement raison, elle a réussi son coup. Pour ce qui est du reste, on avait 3 pro-tramway, 3 anti-tramway. Dans les anti-tramway, seulement un qui propose un plan de mobilité, c'est Sam Ahmad avec le SRB. Je le redis, je sais que je suis à contre-courant d'une radio privée à Québec quand je dis ça, mais guys, ça va en prendre un réseau de transport structurant. Je parlais avec les gens hier, on est rendu à tout près de 700 000 habitants dans la région de Québec. On va taper le 1 million en 2040. Faites des recherches partout, toutes les villes qui ont 1 million d'habitants et plus ont un réseau de transport structurant, et ça, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on ne peut pas passer à côté. Le tramway à l'heure actuelle, moi, j'en veux plus. Ça aurait pris le réseau structurant au complet, c'est-à-dire le plan cité au complet, parce que c'est pas vrai qu'avec seulement ce 19 km-là, on va venir répondre à ce besoin-là d'un million.
T'as raison, mais on a un enjeu d'acceptabilité et de finances, évidemment. Moi, je me dis, à un moment donné, est-ce qu'on est mieux de commencer par un petit morceau, puis après ça, le reste se greffe autour? Je trouve que la stratégie d'y aller peut-être un peu moins gros est bonne. Et tu disais que les autres n'ont pas de plan, mais Anne Guérette a quand même un plan. C'est juste que...
Essayez de nous l'expliquer un matin.
Oui, c'est ça. C'est juste
pont,
que...
Un pont,
un
tunnel, 34 km, ça va coûter 7,6 milliards. C'est parce que le troisième lien va coûter 7,6 milliards.
Écoute, elle est très optimiste. On parlait de rêve tantôt, là, dans le débat. Bon,
c'est ça.
Mais puis, je te suis sur ça, Jeff. Je veux dire, c'est la région métropolitaine de Québec qui... En 2040, 1 million d'habitants, c'est la plus grande croissance démographique dans les grandes villes du Québec qui est annoncée par l'Institut de la statistique du Québec. Réalistiquement, une région démographique à 1 million d'habitants, faut un transport structurant, puis faut un troisième lien. Puis moi, je le dis toujours, arrêtez de mettre les deux projets en opposition. Quand t'as un million, on parle d'un million, on n'est plus dans les 300, 400 000, là, on parle d'un million d'habitants. Quand t'es rendu à ce nombre de personnes-là qui habitent dans ta région métropolitaine, faut des projets d'envergure pour ton développement. Puis ça, ça passe à la fois par des liens autoroutiers que par du transport structurant.
La différence entre le tramway et le troisième lien, moi, je suis favorable aux deux. C'est juste que le tramway, on a un projet qui est prêt.
Oui.
Et le troisième lien, on n'a jamais vu un projet qui tenait debout. Donc, on veut bien. Moi, je suis pour. C'est juste que j'aimerais ça qu'on me dise le trajet, ça va être ça, ça fonctionne. On est capable techniquement de le faire. Mais le dernier trajet qu'on nous a présenté, tout le monde est contre, puis on pense que ça fonctionnera pas. Donc, bref, on va pas attendre après le troisième lien pour faire le tramway. Mais moi non plus, je suis un peu tannée d'entendre les gens s'opposer là-dessus, comme s'il fallait prendre son T-shirt pro-tramway ou son T-shirt pro-troisième lien. On est pro-mobilité, puis on est pro que Québec devienne une ville moderne qui est à la hauteur du nombre d'habitants qu'on a dans la région.
On a des belles réactions par texto. Il faudra optimiser le RTC et le rendre efficace à son maximum avant d'ajouter un tramway. Entièrement d'accord, et ça fait partie du plan avec le tramway, justement, d'optimiser le RTC. C'est dans les cartons de modifier des lignes, justement.
C'est que les gens voudraient qu'on fasse un avant l'autre.
Mais les deux vont ensemble.
Ça va aller ensemble.
C'est ça, les deux vont ensemble. C'est prévu dans le plan de tramway. Puis c'est prévu dans le plan SRB de Sam Ahmad aussi, soit dit en passant. Christian qui nous écrit, ouais, d'accord, mais ça nous prendrait peut-être quelque chose plus réaliste, plus faisable dans un court délai. Mais ben, Christian, c'est exactement ce que Sam Ahmad propose avec le SRB. Donc, tu as un choix de candidat à la mairie si tu veux aller vers ce choix-là. Et puis, le 2 novembre prochain, est-ce que nous allons voter pour un conseiller et pour un maire? Est-ce qu'il y aura deux votes à faire?
Oui.
C'est comme ça que ça fonctionne, les élections municipales. Puis moi, je sais déjà pour quel conseillère je vais voter dans mon coin. puis je suis encore à penser pour quelle maire ou mairesse je vais aller voter.
Vous n'êtes pas obligé de voter pour le même parti, pour votre conseiller et votre maire.
Exactement.
Vous pouvez être stratégique, vous pouvez aimer deux partis, puis des personnes de manière plus individuelle. Vous pouvez voter pour deux partis différents pour votre conseiller ou le maire-mairesse.
On y va avec un débat qui était très important à mon égard, c'est le logement, parce que oui, on est en pleine crise du logement partout au Québec, partout au Canada. Ça a été un enjeu de la dernière campagne fédérale. Donc, on écoute ce que les candidats avaient à dire par rapport à cet enjeu très important.
Si on ferait un calcul simple, là, 100 000 logements en 180 mois, ça veut dire 555 logements par mois à tous les mois pendant 15 ans. Pensez-vous vraiment que le monde de Québec sont capables de comprendre ou de croire que ce que vous promettez, c'est pas un miracle? Pensez-vous vraiment qu'on est capable de faire 555 logements par mois à tous les mois pendant 15 ans? Vous allez trouver où la main-d'œuvre? Il va se passer quoi avec les infrastructures? Comment les infrastructures vont suivre? C'est beau, là, de promettre des mirages, là, dans toutes sortes de niveaux, mais... Allez-y, répondez-moi là pour me dire vraiment comment vous allez faire pour construire autant de logements tous les mois pendant 15 ans.
On va faire ce qu'on fait actuellement depuis plusieurs mois.
Oui, c'est combien?
Bien, c'est ce qu'on a présentement. On va dépasser 5 000 cette année. On va dépasser 5 000 en 2025. Ça va être une année record. À part 2021, on n'a jamais fait 120 ans.
Ça, c'est l'exemple idéal. Je demanderai votre opinion. L'exemple idéal, Bruno Marchand, maire d'une ville qui est tout est bloqué, les permis, ça prend du temps. Et là, on arrive aux élections, il y a nouveau Bruno Marchand qui est en élection, ils travaillent un contre l'autre. Là, ils donnent des permis. Voyez, regardez qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites la vérité.
C'est intéressant ce que vous dites, M. Hamad, là.
Bien sûr.
Peut-être à un moment donné, je peux prendre les conseils de Mme Forger et vous pouvez me montrer comment faire du golf.
Là, c'est important ce qu'il vient de dire là, parce que quand on parle d'ouvrir le périmètre urbain, on parle d'étendre notre territoire davantage, ce qui est autant d'un point de vue écologique, environnemental, mais aussi d'un point de vue économique pour les finances publiques des villes, la pire affaire, là, parce que là, ça force à étendre nos infrastructures et les envoyer plus loin, puis prévoir justement plus de routes à déneiger, plus d'égouts à passer, tout ça. Cela étant, moi, ce qui me fascine, M. Lachance, c'est quand on regarde, c'est quoi les sujets là, du moment, là, le zeitgeist, là, qu'est-ce qui intéresse les gens où on se parle. J'ai lu votre carnet de route, puis il y a des très bonnes idées là-dedans, puis vous l'avez déposé tôt, mais je ne peux pas croire qu'en 2025, alors que ça va être des principaux sujets de cette élection-ci, et ça va être un des principaux sujets de l'élection provinciale l'an passé en 2026, dans votre carnet de route, il n'y a pas une seule référence, une seule mention, une seule évocation du logement social. Il n'y a absolument rien dans votre plateforme pour la construction de logements sociaux, communautaires, logements abordables. Comment, en 2025, vous pouvez vous présenter devant les gens avec une plateforme dite sérieuse en n'ayant aucun propos à propos de la construction du logement social?
Je pense que ça a été une des bonnes interventions du débat, celle-ci de Claude Villeneuve. Puis c'est pour ça que je l'ai mis dans son entièreté. C'était face à Stéphane Lachance où il disait « Vous avez justement dans votre cahier pour le logement, vous n'avez rien sur le logement social. Vous parlez d'étendre le périmètre urbain. » Donc, étendre le périmètre urbain, c'est quoi? Bien, c'est créer des nouvelles infrastructures en eau, en égout.
En route,
en etc. Déneigement. En déneigement. Alors, c'est quoi ça? C'est des coûts additionnels. Et Stéphane Lachance propose de couper dans les dépenses de la ville.
Oui, mais c'est magique, là.
Oui, mais c'est ça, ça ne va pas ensemble. Et rien pour le logement social aussi, alors qu'on est en pleine crise d'itinérance. D'ailleurs, petit conseil aux opposants de Bruno Marchand, parce que je sais qu'il va y avoir d'autres débats. Logement, il n'y en a pas un qui a mentionné le mot itinérance. Pouvez-vous parler de la crise de l'itinérance, s'il vous plaît? C'est un enjeu majeur, puis c'est un enjeu avec lequel, et il n'est pas le seul responsable, la CAQ également, mais avec lequel Bruno Marchand nous avait quand même promis des solutions miracles avec itinérance zéro, puis il n'a pas livré. Fait que s'il y a un enjeu sur lequel vous pouvez frapper, c'est là. L'autre chose, il y a eu deux Bruno Marchand dans la dernière année, dans les quatre années de son mandat. Les premiers deux ans où c'était difficile en création de logement. En 2023, c'était moins 40 % par rapport à la dernière année du mandat de Régis Labeaume. Quand cette statistique-là est arrivée, là, j'ai vu un Bruno Marchand se mettre en marche. OK, on va délivrer les permis plus rapidement. OK, on va changer nos façons de faire. OK. Et là, il s'est accoquiné avec France-Hélène Duranceau, puis bang, il y a eu ce boom-là. Et c'est sur ce boom-là qu'il surfe. Mais vous pouvez aller creuser dans ces années-là aussi.
Ben oui.
Vous pouvez aller voir. Et ça se fait pas. On reste en surface. On reste encore avec le tramway, la mobilité. Je suis très déçu des opposants de Bruno Marchand à l'heure actuelle.
Oui, puis on en jase souvent depuis le début de la campagne, puis t'as raison. Dans le sens que les enjeux restent en surface. On est beaucoup dans des slogans. Puis ça dépend des candidats. Là. Puis effectivement, oui. on en parlait, Claude Villeneuve a fait une bonne intervention. C'est sûr que quand tu es chef d'opposition pendant 4 ans, les dossiers, tu les suis au quotidien avec attention, alors que les candidats qui arrivent un petit peu plus de l'extérieur, bien, ils ont un rattrapage à faire. C'est pas des énormes équipes non plus de recherche au niveau municipal, hein, parce que...
Ouais, je le sais.
Puis là, tu sais, je fais le parallèle avec ta manière de travailler. Je travaille avec toi depuis quelques semaines. C'est pas tout le monde, évidemment, qui est comme ça. Il y a beaucoup d'élus et de candidats en politique qui se reposent sur leurs équipes et qui s'attendent à ce que leurs équipes leur montrent des dossiers, puis qui vont pas nécessairement eux-mêmes être hyper zélés puis aller tout lire nécessairement. Puis c'est vrai que derrière les communications, c'est vraiment important. Mais si tu n'as pas compris le fond de l'affaire, puis si tu n'as pas toi-même poussé puis réfléchi à ça, là, bien, tes lignes de communication, elles vont sonner vides. Alors que c'est correct d'être capable de bien résumer un message puis de le synthétiser. Là, dans un débat, tu ne peux pas parler
t'as
pendant
pas le choix.
Une demi-heure. Mais il faut que tu aies compris le fond en arrière de
c'est
tout
ça. Et j'ai l'impression, justement, que les nouveaux venus, puis là, je le dis, c'est une impression, mais un Sam Hamad, un Stéphane Lachance, je vais mettre Anne Guérette là-dedans, même je la considère pas beaucoup dans la course, ils n'ont pas fait leur devoir. Ils n'ont pas pris la peine de regarder ces éléments-là. Donc, ils arrivent en débat, puis là, ils sont très en surface. Ils sont très message communicationnel.
Claude Villeneuve a été identifié comme celui qui a le mieux performé
hier. Ben oui,
hier.
Parce que lui le connaît, puis je sais qu'il a eu l'avantage d'être 4 ans
absolument.
Au niveau d'être chef d'opposition. Mais si tu te lances dans la course à la mairie, si tu veux qu'on te considère comme un futur maire, faut que tu arrives prêt. Faut que tu me démontres que tu as du sérieux. Et c'est ce que je ne vois pas à l'heure actuelle. Puis je veux pas refrapper dessus, mais un gars comme Stéphane Lachance qui dit on va étaler le périmètre urbain, ben il le fait parce que c'est juste parce qu'il veut pas te créer de réseau de transport structurant. Parce que sinon, il densifierait la ville. Densifier la ville, ça vient que réseau de transport structurant. Je veux pas de réseau de transport structurant, je vais étaler le périmètre urbain. Si j'étale le périmètre urbain, je peux pas promettre 150 millions de coupures de dépenses.
De toute façon, tout le monde le dit, les urbanistes le disent, tous les experts le disent, l'étalement a ses limites à un moment donné, puis les taxes que tu vas aller récolter, c'est pas suffisant pour, après ça, entretenir tout ce que tu as à entretenir comme infrastructure, surtout que nos infrastructures dans toutes les municipalités sont déjà vieillissantes et juste les entretenir, ça coûte extrêmement cher. Donc, ça ne tient pas la route de reposer ta vision du développement de la ville uniquement sur de l'étalement.
Non. Bon, on parle d'un autre groupe qui s'entend pas, parce que là, il y avait des politiciens qui s'entendaient pas. Non, qu'est-ce qui se passe avec les médecins et notre gouvernement, Antonine? Dis-moi ça.
Écoute, je te fais ça vite, là, parce qu'il y a une médiation qui est en cours.
Ouais.
Il
n'y
a pas grand-chose qui coule ou qui ressort de ce qui se passe dans la médiation, mais ce qu'on a appris hier, c'est que le médiateur mettait une pause à la médiation, nous expliquant avec les deux fédérations de médecins, là, les médecins spécialistes et les médecins omnipraticiens, que c'était très difficile de trouver, disons, des rapprochements entre les parties. Donc, on est encore très, très loin. La médiation, ça sert à débloquer certaines choses. C'est comme une partie qui est neutre, qui va aller essayer de débloquer les négociations. Bien, c'est pas encourageant. Les négociations ne sont pas débloquées. La FMOQ là, qui continue à appeler à se tourner vers un arbitrage. En quoi c'est différent un arbitrage? C'est que c'est exécutoire. C'est-à-dire que l'arbitre va décider à un moment donné quelque chose et il tranche. Et là, c'est ça qu'il y a dans l'entente.
Exactement. Ça veut dire, voici votre nouvelle entente, c'est fait. Le gouvernement n'en veut pas parce que ça ne passerait pas par un projet de loi. Est-ce que j'ai bien compris?
Le gouvernement n'en veut pas parce qu'il veut vraiment s'attaquer à la rémunération et il veut s'assurer de garder un peu le contrôle sur les gains qu'il pourrait faire. Le projet de loi 106 est en pause présentement. Le projet de loi 106, c'est celui qui impose par voie législative des indicateurs de performance aux médecins qui sont liés à une partie de leur rémunération. Et ça, les médecins ne le prennent pas du tout. Ils le voient comme un gun sur la tempe, là, carrément. Et c'est aussi là, ce qui explique le ton très, très acrimonieux en ce moment entre les partis. Et de l'autre côté, tu as les médecins qui font des moyens de pression que le gouvernement dénonce. Bref, tout le monde dénonce tout le monde. Tout le monde veut garder son levier de négociation. Mais pour le patient là, québécois en ce moment, c'est pas très encourageant.
Non,
ce
c'est
voit
ça, exactement. Donc, on est vraiment dans un... On est vraiment face à deux chemins complètement différents et on s'en va dans le mur avec ça, on s'en va
écoute,
où?
Le gouvernement est devant le choix suivant, soit qu'on se tourne vers l'arbitrage ou soit qu'on reprend l'étude du projet de loi 106 et on fait avancer ce projet de loi-là. Je veux rappeler aussi que le gouvernement a l'intention d'inscrire de force des patients sur les listes des médecins.
Oui, c'est ça.
Mais là, ça, je veux dire, ça fonctionne pas, là. Parce que, je veux dire, quand même, vous êtes inscrit dans une clinique. Le médecin, s'il n'a pas le temps de vous voir...
Il n'a pas le temps de vous voir.
Il n'a pas le temps de vous voir, là. Fait qu'il y a des choses à faire. Mais Christian Dubé est reconnu pour, des fois, donner un coup de barre dans quelque chose, sachant que le reste ne fonctionnera pas ou va fonctionner sur des roues carrées pendant un bout de temps, mais pour provoquer ce changement-là. Mm-hmm. Il l'a fait avec les agences de placement de personnel médical, infirmière,
oui,
notamment.
Oui, évidemment, ça n'a pas été la catastrophe appréhendée.
Ça dépend des régions, par contre. Oui. En Côte-Nord, ça n'a pas été particulièrement facile, mais ça oblige l'intendance à suivre après. Mm-hmm. C'est-à-dire, regarde, c'est ça qui est ça maintenant. Alors là, tous les morceaux se remettent en place. Ça se fait pas sans heurts, mais on dirait que c'est un petit peu sa manière de fonctionner à Christian Dubé. Dit, tant pis, on y va, parce que sinon, c'est comme, ben non, on peut pas changer ça, parce que sinon, il faut changer ça. Mm-hmm. Ah ben ça non plus, on peut pas le changer, parce que sinon, ça faut... Ben, gars, changeons une affaire, puis après ça, le reste, on va être obligé de le faire. Donc, c'est un peu ça, l'approche de Christian Dubé. Christian Dubé, politiquement, il a réussi à garder la faveur de la population pendant très longtemps, alors que son gouvernement est dans la chenoute depuis très, très longtemps, mais ça ne lui colle pas à la peau.
En effet.
Mais là, si les résultats commencent pas à apparaître en santé, c'est sûr que c'est un peu son legs, puis ce qu'il va laisser comme impression à la fin de son mandat qui est affecté. Donc, il en fait pratiquement une affaire personnelle. C'est correct si l'objectif, c'est en bout de ligne que les patients récoltent les fruits de tout ça. Mais tu sais, je te dis en conclusion sur ce sujet-là que je trouve que la CAQ, en ce moment, qui essaie absolument d'aller chercher des points dans les sondages, d'aller chercher des gains, des fois, je me dis, attention, là, tu sais, est-ce qu'on va faire des choses de manière précipitée, très populaire politiquement, mais les faire un peu tout croche pour, tu sais, comme, mettons, faut que tu vendes ta maison, puis là, tu repeintures des affaires par-dessus de la pourriture, là. non, tu sais.
Ouais, puis tu sais, je vais être plate, mais anyway, peu importe ce qu'ils vont faire dans la dernière année, ça me surprendrait que le sondage remonte à 30 %, tu sais, on s'entend.
T'es pas optimiste.
Ouais, je suis pas optimiste du tout. Puis... Christian Dubé, à l'heure actuelle, avec les médecins, se colle beaucoup sur le discours de François Legault. François Legault, qui est le politicien le plus impopulaire au Québec.
Mais c'est ça, casser les carcans, la camisole de force, etc. On s'attaque aux syndicats, qui sont pas seulement les syndicats des médecins, mais tous les syndicats. T'sais, à un moment donné, à force de vouloir être populaire, faites attention aussi de ne pas briser des équilibres. En tout cas, bref, c'est que t'sais, les projets de loi, ils cheminent. Ils font l'objet d'une étude. Il y a des groupes qui viennent s'exprimer. Il y a une raison à ça, hein, pourquoi on peut pas faire des affaires en deux minutes dans la vie. C'est parce que souvent, les projets de loi, ils peuvent être améliorés. Les politiques, il y a des effets pervers qu'on n'avait pas vus puis qu'on peut mitiger si on prend le temps de faire bien les choses. La CAQ est pressée, c'est correct, mais il ne faut quand même pas perdre de vue en bout de ligne que c'est le bien des patients qui... Et aussi le bien des employés du réseau de la santé. Là, c'est pas facile de travailler dans
non,
le réseau de la santé.
Non, on n'a pas trop d'employés. Puis c'est le processus démocratique, hein, les commissions parlementaires, pour justement adopter les projets de loi. Et si la CAQ est en pressée, c'est parce que pendant 7 ans, ils n'ont pas livré les résultats. Ben, fait que shame on you, qu'on dit, bon français. Hey, parle-moi donc des belugas. Tu m'as parlé des autruches l'autre jour. Parle-moi,
exact.
Qu'est-ce qui se passe avec nos belugas à Maryland? Moi, je suis allé 3-4 fois dans ma vie à Maryland. Il se passe quoi avec les belugas là-bas?
Moi, je suis jamais allé à Maryland, OK? Puis quand moi, j'aime beaucoup les animaux. C'est pour ça que je plug des fois des sujets sur les animaux.
Ben oui!
Mais un jour, j'ai appris que les mammifères marins sont extrêmement malheureux dans des parcs.
Mais tu sais quoi? La journée où j'ai appris ça, je ne suis plus jamais retourné à Maryland.
J'ai vu un documentaire à un moment donné sur c'est bien le fun d'aller nager avec les dauphins quand tu vas dans le sud. Une fois que tu vois comment ils sont traités puis comment ils vivent beaucoup moins longtemps que dans la nature, dans des piscines chlorées avec des filtreurs à eau qui les rendent complètement fous. Ils deviennent agressifs les uns envers les autres. Bref.
Là, je tenais à faire la rectification comme quoi j'avais arrêté d'aller à Maryland une fois que je l'avais su, parce que les yeux que tu m'as fait quand j'ai dit que j'étais allé à Maryland, j'ai dit oh,
mais
je suis
sont
dans le trouble. Ben, c'est comme. Non, c'est ça. J'ai dit là, je suis dans le trouble. Antonine va dire il est de la marde, Jeff.
Ben non. Mais tu sais, aussi, il y a des affaires qui datent d'une autre époque dans la vie. Là, les choses évoluent.
Ouais, puis Maryland, c'était resté à l'autre époque avec le béton. Là.
Ben, c'est ça. C'était pas toujours glorieux à une certaine époque.
Non.
Ceci étant dit, le parc, un des parcs Maryland qui se trouve en Ontario ferme. C'est plus aussi populaire pour les raisons qu'on vient d'évoquer.
C'était tellement vieillissant.
Et il y a aussi une législation là, qui est passée en 2019 qui interdit un paquet de choses concernant les cétacés, notamment leur vente et leur exportation. Or, Maryland ferme. Là, il y a un paquet de belugas et de dauphins là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec des belugas et des dauphins quand un parc marin comme ça ferme? Donc, la question se pose.
C'est ça. On les envoie où? Parce que ça ne doit pas être... évident à transporter.
Mais tu peux pas juste comme mettre ça dans un camion puis envoyer ça dans l'estuaire du fleuve. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non, c'est ça.
Donc, il y a un parc marin chinois qui a offert de les acheter. C'est cétacés-là. Demande-moi pas comment ils vont les faire transporter jusque là-bas, mais ça doit être dans un bateau, j'imagine. Cela étant dit, c'est interdit depuis la loi qui a été adoptée.
Everybody loves marine.
On l'a pas en français, hein?
Ah, oh, je vais aller la mettre en français.
Mais sinon, je t'achante, là, ça va être terrible. Changez pas de poste. Tout le monde aime Marineland.
Continue, on envoie ça.
Il y avait la parodie dans BO aussi. Se faire licher la face par une grosse baleine. Fait que là, qu'est-ce qui se passe?
On envoie ça où? Qui est fâché?
Premièrement, les gens qui sont pour la défense des animaux sont tous très fâchés. Parce que là, une fois que Pêche et Océan Canada a dit à Marineland, non, vous pouvez pas envoyer vos baleines en Chine, parce que c'est interdit depuis 2019, mais Marineland a dit, parfait, on va les euthanasier. Nous, on n'a plus d'argent. Ouais, on n'a pas d'argent, nous autres, pour entretenir ça.
Mais là, on ne peut pas euthanasier ces baleines-là.
Ben, c'est ça.
Là, j'aime plus Marineland.
Quel jingle, quand même. Non, personne aime Marineland depuis qu'ils ont dit qu'elle a euthanasié les baleines.
Ben voyons. Puis là, comment ça va finir? Ça peut pas finir de même.
Là, le gouvernement a dit, voyons donc, vous allez pas euthanasier des baleines. Donc, ils disent, donnez-nous de l'argent. Vous allez vous en occuper, vous autres, des baleines maintenant. Le gouvernement est comme, voyons donc, on est à s'occuper de ces baleines-là. Vous êtes responsable de ces cétacés.
Parce que c'est eux, Marineland, qui les avaient achetés.
Exactement. Donc là, il y a une autre option qui a été mise sur la table, c'est de les envoyer en Nouvelle-Écosse. Il y a un sanctuaire qui est en préparation, mais qui ne serait pas tout à fait encore prêt. Donc, ce ne sera pas possible.
OK.
Donc, bref, ça continue de se lancer la balle, continue de suivre cet enjeu-là.
On va suivre ça, certain.
Mais qui va payer pour ça? Tu sais, c'est... Puis là, attention, parce que c'est le fédéral qui gère les baleines au Canada. Ouais. Parce que ils ont l'expertise, les biologistes sont chez Pêche et Océan Canada. Mais est-ce que ce parc-là est en Ontario? Est-ce que ça va rebondir au gouvernement ontarien puis que là, les gens vont mettre la pression pour que ce soit le gouvernement qui commence à payer pour qu'on ne tue pas les pauvres belugas qui n'ont absolument rien demandé dans cette histoire-là?
Bien, c'est ça. En passant, eux autres, ils ont juste demandé à vivre leur vie en nature, puis on les a capturés, puis on les a amenés à Marineland.
Pour les faire sauter, puis...
Pour que ça soit impressionnant, dans l'amphithéâtre qui avait été bâti en béton en 1972 et qui n'a jamais bougé. Là.
Écoute, ça me fait tellement passer au zoo de Québec quand j'étais petite, là, avant qu'ils en fassent quelque chose de cute. Là. Il y avait des animaux là, sur des dalles de béton. Là.
C'était
tellement déprimant. J'ai des photos des années 80 de moi, genre à 2 ans, devant des cages. Là. C'est épouvantable.
L'ours n'était pas heureux au zoo de Québec, là, mais non. Pas pantoute.
Ben, c'est ça. Fait que c'est pareil pour les cétacés qui se retrouvent dans ces parcs-là, mais à suivre, qu'arrivera-t-il avec les belugas?
Ça va être à suivre, ce dossier Marineland. Tu vas nous tenir au courant, certain, Antonine?
Oui, je vous tiens au courant.
Excellent. Après la pause, on fait un tour de nouvelles avec Mathias Turcotte et également, on va parler du débat qu'on aura des candidats à la mairie de Lévis, ici même sur les ondes de Boulevard 101 dans l'émission On en jase. Ça sera un débat le 21 octobre prochain, avant de passer à la pause. C'est vrai, j'allais oublier. On vous gâte. Par texto, 418-971-1021. Est-ce que t'as le goût d'aller voir le spectacle d'Offspring au Centre Bell le 21 février 2026 dans le cadre de la tournée Supercharge Worldwide 2026 avec comme invité spécial Bad Religion. Cette semaine, soyez à l'écoute de Boulevard 101. Vous pourriez gagner votre paire de billets, ça tombe bien. J'en ai deux à faire tirer directement là. Donc, 418-971-1021. On va faire un gagnant et c'est très simple. Vous devez écrire votre chanson préférée de l'album Smash de Offspring, la première cassette qu'Antonine Iaccarini s'est achetée et que Jeff Fortin aussi. Fait que vous n'avez pas le choix. Allez-y, mentionnez-moi votre chanson préférée de l'album Smash au 418-971-1021. Et parmi tous les gens qui vont participer, on fait tirer une paire de billets pour le 21 février 2026 au Centre Bell. Courte pause, on revient avec l'essentiel de l'actualité. Et la campagne électorale ne se passe pas juste à Québec, elle se passe également à Lévis. On en parle.